semaine 24 de la Bible en 24 heures. On arrive à la fin de notre étude et on a fait un survol de la Bible en 23 leçons et là on va faire un survol du survol.
Voilà.
On va faire un vol orbital de toute la Bible. C'est vrai que c'est souvent plus facile de prendre un passage et de l'étudier à fond que d'essayer de résumer, mais on va essayer de parcourir un peu ce qu'on a vu. Et encore une fois, l'étude est enregistrée chaque semaine, donc c'est disponible en ligne s'il y a des passages qui vous intéressent. Et l'idée, c'est pas bien sûr de faire de vous des spécialistes, de tout connaître, mais c'est plutôt pour vous donner le goût de plonger dans l'étude de la Bible comme un passe-temps, une activité formidable et une source de grande joie d'étude pour toute votre vie. On a vu donc que la Bible était composée, comme vous le savez, en deux grandes parties, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Au niveau de la durée qui est représentée par ces deux parties, il est clair que l'Ancien Testament, c'est une partie beaucoup plus longue que la partie du Nouveau Testament, qui représente à peine une génération, peut-être une génération et demie, puisqu'on arrive à l'Apocalypse avec l'apôtre Jean qui est à la fin de sa vie. Mais c'est une centaine d'années comparé à plusieurs milliers d'années, si on considère que le récit de la Genèse, le récit de la Torah a été écrit par Moïse, mais que ça couvre une période d'au moins 6000 ans. Et on a vu qu'il y avait des livres, des morceaux, des passages différents dans chacun de ces testaments. Alors, l'Ancien Testament, il y a combien de livres? Est-ce que vous vous souvenez de ça?
39.
Il y a 66 livres en tout, en comptant le Nouveau Testament. 39 et 27 dans le Nouveau Testament. Dans les 39, est-ce que vous vous souvenez des 5 premiers? Comment on les appelle ensemble?
Le
Pentateuque, c'est le mot grec, ou la Torah, c'est le mot grec, le mot hébreu, pardon. Et ces livres, vous vous souvenez, la Genèse, l'Exode, le Deutéronome, c'est le dernier,
les
Nombres. Non, alors ça commence, Genèse, Exode, Lévitique, Nombres et Deutéronome. La Genèse, c'est le livre des commencements, l'Exode, c'est la naissance de la nation. Le Lévitique, ça va être la description de la loi que Dieu donne à la nation avec les rites religieux, les rituels religieux. Livre des Nombres, c'est la traversée du désert. Ils sont partis d'Égypte et ils essayent d'aller en terre promise. Et le Deutéronome, c'est une répétition de la loi. Deutéros, ça veut dire deux en grec. Nom, c'est nomos, c'est la loi. Donc c'est la deuxième donnée, deuxième délivrance de la loi. Et la Genèse, on a vu que c'était un livre absolument fantastique qui met en route beaucoup de choses. C'est le livre des commencements. On voit la création du monde dès le départ, la Bible ne met pas la question de l'existence de Dieu comme une question philosophique. Elle dit au commencement, Dieu fit ceci, fit cela. Et j'écoutais un docteur en sciences du MIT qui est chrétien et qui disait qu'en fait, les scientifiques modernes étaient un peu comme des poissons dans un aquarium qui se demanderaient lequel d'entre eux a créé l'eau de l'aquarium. On est dans un monde, et la question, c'est pas de savoir comment il a été fait, mais pourquoi il est là? Pourquoi est-ce qu'il y a la vie? Pourquoi est-ce qu'il y a l'existence plutôt que le néant? Et la Bible nous explique que c'est parce qu'il y a Dieu qui nous a créés et donne des réponses qui sont beaucoup plus satisfaisantes à l'esprit logique que les choses farfelues que les scientifiques soi-disant savants et pleins de connaissances essayent d'inventer pour expliquer un monde qui serait là sans Dieu. On a vu des choses remarquables, on a vu donc qu'il y a le début de la création de l'homme et de la femme, le péché, la description du péché de l'homme, comment le péché entre dans la race humaine, comment il y a un évangile qui est déjà annoncé dès le troisième chapitre, on appelle ça le proto-évangile de la Genèse 3.15, où Dieu dit au serpent, qui est Satan, qui a induit la femme en erreur en la faisant pécher, en désobéissant à Dieu, « Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. » La descendance de la femme, il parle nommément de Jésus. « Celle-ci t'écrasera la traite, tu lui écraseras le talon. » Le talon, c'est la croix où Jésus a eu quand même très mal. Mais il a écrasé la tête en ressuscitant, en étant vainqueur. Et on a trouvé une chose que peu de personnes réalisent, c'est que l'évangile est aussi annoncé dans la Genèse 5, dans la liste des noms des patriarches. On a vu qu'en fait, si on lit la liste des noms, de Adam à Noé, on a là, en prenant l'équivalent, le sens du mot hébreu, on a une description de l'évangile. Et on avait expliqué que Adam, ça signifie homme. Son fils, donc il suffit de suivre, et on voit que verset 3, âgé, Adam eut 7, S-E-T-H. Lui, ça veut dire réservé, appointé, nommé. Et puis le descendant de Seth, c'est Enoch, qui veut dire mortel. Le fils d'Enoch, c'est Kénan, qui veut dire chagrin. Kénan, il a engendré Mahalalel, qui veut dire le Dieu béni. Et puis Mahalalel a engendré Yéred. Yéred, ça veut dire qui vient d'en haut. Et la suite des noms, Enoch, ça veut dire enseignant. Mathusalem, c'est l'homme qui a vécu le plus longtemps, 962 ans. Et son nom veut dire sa mort amènera point de suspension. On imagine que les gens devaient être inquiets de voir Mathusalem quand il était malade. Qu'est-ce que ça va nous amener, sa mort? Mais il y avait cette prophétie par son nom. Après, il y a Lémec, qui veut dire désespéré, ceux qui désespèrent. Puis, il y a le nom de Noé, qui veut dire repos ou consolation. Et quand on met tout ça ensemble, on a le message qui veut dire « À l'homme est réservé un mortel chagrin, mais le Dieu béni viendra d'en haut, annonçant que sa mort amènera à ceux qui désespèrent repos et consolation. » Et ça, c'est un des caractéristiques de la Bible, c'est que Dieu a mis plein de repères dans sa parole pour montrer que sa parole est son message. On a souvent parlé du fait que Dieu est en dehors du temps, et donc il n'y a que récemment, en fait, qu'on peut mieux scientifiquement comprendre ces choses. Il n'y a que peu de temps, c'est avec Einstein, la théorie de la relativité, qu'on s'est aperçu qu'en fait le temps, ce n'était pas une chose éternelle, immuable. Le temps, c'est une propriété physique. Une propriété physique qui est liée à la masse, à la vitesse. Et il y a une relation que, en fait, entre l'énergie et la masse qui passe par la vitesse de la lumière. Et donc, le temps n'est plus cette chose absolue. Et on parle de cette expérience ou de cette conséquence de la théorie que s'il y avait deux jumeaux qui naissaient au même moment sur la Terre, qu'il y en avait un qui partait à la vitesse de la lumière faire un voyage interplanétaire et revenait, Quand il reviendrait, il serait toujours jeune, mais son frère qui serait resté sur terre serait un vieillard. Et parce que le temps n'est pas une donnée absolue, elle est fonction de d'autres données physiques. Et ça, c'est ce que la science la plus moderne a simplement trouvé. Et donc Dieu, il est pas dans le temps, il n'est pas soumis aux mêmes contraintes, il est en dehors du temps. Et donc, au lieu de voir le passé, le présent, le futur, comme nous les voyons, comme une succession de choses sur une ligne qui va de moins l'infini, du passé extrême jusqu'à l'infini extrême, au futur extrême, lui, Dieu, il voit tout. Ou alors, une autre façon de voir, c'est de dire que quand on regarde un film, on voit ça une image à la fois, 24 images par seconde pour donner l'illusion du mouvement. Mais Dieu, aussi bien, il peut balancer faire dérouler toute la bande du film. Il voit tout. Et donc Dieu est en dehors du temps, et comme il est en dehors du temps, et qu'il est le seul à être dans cette position, il a une position d'avantage pour valider son message. Et son message, il le valide en disant, voilà, moi je vais vous dire ce qui va se passer dans 100 ans, dans 200 ans, dans 2000 ans, et c'est exactement ce qui se passe. Et il est le seul, et il n'y a que la Bible dans laquelle on trouve des prophéties comme ça. Et ça doit nous donner en tant que chrétiens une assurance, une confiance absolue dans la Bible. Il y a eu des milliers déjà de prophéties qui ont été réalisées à la lettre. Il y a des prophéties qui sont annoncées clairement, qui ne sont pas farfelues, qui ne sont pas réalisées encore. On peut être certain qu'elles vont se réaliser. Et on peut bâtir sa vie sur ce qui a été vérifié dans le passé et qui va continuer à se vérifier. Et donc... Ça, c'est une des caractéristiques et une façon d'authentifier son message que Dieu utilise avec nous. Et ce qui est terrible, c'est que la plupart des chrétiens, on est là, on dit, il y a le petit Jésus, il faut être gentil et il faut faire du bien autour de soi, et puis ça s'arrête là, quoi. C'est presque... Et puis, si on n'est pas très bon, si on fait des bêtises, c'est pas bien grave, de toute façon, on fait notre mieux. Mais même au sein de l'Église, les gens n'ont rien compris. Et c'est parce qu'ils n'étudient pas la Bible. La Bible, c'est quelque chose un peu secondaire, quoi. On sait qu'il y a de bonnes choses dedans, quoi, mais c'est pas là qu'on dérive la substantive moelle, comme aurait dit Rabelais, je crois, ou je ne sais plus qui, la source de notre vie, de notre foi, c'est la parole de Dieu. On a parlé du fil écarlate. Cette promesse qui commence donc dans la Genèse 3,15, où Dieu va promettre d'écraser la tête par la descendance de la femme, d'écraser la tête de Satan. Il y a cette promesse donc que le Messie va venir. Il y a une promesse qui est faite à la nation juive, c'est dans la Genèse 22 que Dieu va faire venir le Messie. Il va par une nation, les descendants d'Abraham, mais après dans la Genèse 49, ça se précise, ça va être par une tribu, avec Jacob, ça va être la tribu de Juda. Et puis dans 2 Samuel 7, ça se précise encore, ça va être dans la maison de David. Et le Messie va régner sur le trône de David pour toujours. Et il y a d'autres choses étonnantes dans la Torah, notamment dans le Pentateuque. Le fait qu'on a remarqué maintenant avec l'utilisation d'ordinateurs qu'il y a des séries de lettres équidistantes. C'est-à-dire qu'on a un texte assez fiable quant au texte hébreu, parce qu'il était recopié depuis les origines par des scribes pour qui c'était vraiment un ministère sacré. Et ils utilisaient des grandes précautions pour recopier le texte qu'ils avaient. Ça a été vérifié lorsqu'on a retrouvé en 1947 des documents dans les grottes de Qumran, et notamment le texte entier du prophète Ésaïe, qu'on a pu comparer avec des textes qui dataient de 900 ans plus tard, qui avaient été recopiés de copies, de recopiés de copies. Et en fait, c'était la même chose. Il n'y avait pas d'erreur. Il y avait peut-être 1% de faute de frappe, on dirait, des tout petits détails qui ne changeaient rien, absolument rien au sens. Et donc sur ce texte, on peut trouver, par exemple, tous les intervalles de 7 lettres, livre 7, le nombre 7 a une grande importance dans la Bible. C'est un nombre qui représente ce qui est complet. C'est étonnant de voir que la semaine, les révolutionnaires ont essayé de passer à la semaine de 10 jours, mais la semaine, c'est 7 jours. Les notes de musique, on peut faire des modes intertonaux, je ne sais pas, il faut des musicologues pour en parler, mais la gamme, c'est sept notes. Et c'est cette couleur principale de l'arc-en-ciel. Dans la Bible, il y a souvent des choses qui sont basées sur ce modèle de sept. On a vu dans l'Apocalypse, à la fin, il y a les lettres aux sept églises, il y a les sept sceaux qui sont ouverts, il y a les sept trompettes. Ce nombre est particulier. Et par exemple, on peut trouver soit à des distances de sept lettres ou des distances de sept fois sept, qui est un peu encore plus impressionnant comme nombre, des distances de 49 lettres. On peut par exemple trouver dans la Genèse 38 les initiales, les lettres qui composent le nom des descendants. On a Boaz, on a Ruth, on a Obed, Jessé, David. On a Isaïe, David. On a la descendance qui va aller vers Jésus. Et ça, c'est pas possible qu'on l'ait, que des scribes aient pu le faire au hasard. Est-ce qu'il y en a qui jouent au sudoku, je ne sais pas comment on dit. Vous avez essayé de jouer au sudoku? C'est ces petits trucs qu'on trouve maintenant avec les mots croisés dans les journaux. Il faut avoir des combinaisons de chiffres. Il faut que sur une ligne, il y ait tous les chiffres de 1 à 9. Que dans chaque carré de 3 par 3, il y a aussi tous les chiffres de 1 à 9. Et il faut que... C'est pas facile de faire ce petit jeu. Et ça, ils peuvent le faire parce qu'ils ont des ordinateurs. C'est rien pour un ordinateur de combiner. Mais pour que des scribes qui n'avaient pas accès à des machines à calculer ou à des ordinateurs ou même à des machines à écrire, d'arriver à mettre ainsi des mots qui se forment, des mots croisés, de mots croisés, les mots croisés un peu de top, quoi. Ça peut pas... C'est un autre aspect qui doit nous conforter dans la validité de la Bible. Alors certains mettent beaucoup de sensationnel là-dedans, et il n'est pas question de baser notre foi sur ces découvertes de séquences de lettres équidistantes qui donnent des coïncidences frappantes ou bizarres ou étranges. Mais pour moi, c'est aussi des clins d'œil de Dieu qui nous dit « Vous pouvez me faire confiance, c'est pas n'importe quoi ». Donc, après les cinq livres de la Torah, on est au début donc de la Bible dans l'Ancien Testament, il y a des livres historiques. Il y en a combien des livres historiques? Il y a Josué, Juge, Ruth, 1 et 2 Samuel, 1 et 2 Rois, 1 et 2 Chroniques. Ça doit faire 12, je crois. Hein? Ça fait 12. Et là, on a en résumé, pas mal de détails, l'histoire de la nation d'Israël à partir du successeur de Moïse, Josué, qui va emmener le peuple juif dans la terre promise, qui va remporter des victoires. Et puis ça va être suivi des juges. Au début, il n'y a pas de président, il n'y a pas de roi. C'est Dieu qui est sujet, qui est... Il doit régner, c'est Dieu, c'est une théocratie. Et Dieu va susciter des juges, c'est-à-dire des hommes qui auront une autorité au-dessus du reste, pour essayer justement de les faire sortir des mauvaises passes où ils se trouvent parce qu'ils désobéissent à Dieu. Vous vous souvenez de certains de ces juges? Vous pouvez m'en citer quelques-uns?
David?
Non, ça c'était un roi. Il était juge, mais il fait partie de... On va y venir. Mais il y avait Samson, qui était un juge. Il y avait... c'est... D'autres. Il y avait Déborah, en fait, elle était une prophétesse. Il y avait... Elle a servi comme juge. Il y avait Jephté, il y avait Shamgar, Othniel et Oud. Un qui était bien connu, c'était Gédéon. Gédéon qui voulait pas faire le travail que Dieu lui demandait de faire. Il disait, oh, mais non, moi je suis rien du tout. Et puis l'Éternel lui dit, je serai avec toi, il va faire de grandes choses. Mais à chaque fois, c'était la même chose. Dieu leur donnait un juge, un homme capable de, ou une femme, capable de les sortir d'un mauvais pas où ils se faisaient dominer par leurs ennemis. Et puis une fois qu'ils avaient remporté la victoire, ils se rendormaient, ils retombaient, ils s'éloignaient de Dieu. Et encore une fois, tout ça, ça a été écrit, c'est de l'histoire, pour nous donner l'histoire, mais c'est aussi pour nous servir d'exemple à nous sur qui la fin des temps est arrivée, dit Paul dans 1 Corinthiens 10. Nous aussi, on peut faire appel à Dieu, on peut lui demander son aide, il nous envoie un juge, en la personne de Jésus, de son Saint-Esprit, qui peut nous aider à nous tirer de situations difficiles. Et puis quand la situation se règle, qu'on n'a plus l'angoisse, à ce moment-là, on se relaxe et on a tendance à laisser la chair nous dominer, on tombe dans le péché. Il faut que Dieu envoie d'autres épreuves parce qu'il nous aime. Et là, on retombe dans ces épreuves et là, on se dit, oh là là, Seigneur, viens m'aider. Et là, il revient encore nous aider. Et donc ça, c'est les juges. Il y a le petit livre de Ruth qui peut paraître un peu comme petit livre intéressant, mais qui n'aurait pas une importance capitale. En fait, le livre de Ruth, il est fondamental pour comprendre le sacrifice de Jésus. Parce qu'il parle d'une notion clé dans la Bible, c'est la notion de rédemption, notion de rachat. Il explique que dans les commandements qui ont été donnés dans la Torah, il y avait notamment le fait que si quelqu'un était acheté comme esclave parce qu'il ne pouvait plus subvenir à ses besoins, ou que son terrain était, il devait vendre son terrain parce qu'il ne pouvait pas nourrir sa famille, donc il voulait avoir un peu d'argent, il vendait ses biens. Il y avait même aussi la notion d'un homme qui mourait sans enfant. Un de ses frères était supposé donner des enfants à sa femme pour lui racheter, pour ainsi dire, une descendance, une postérité. Et la chose qui était fondamentale pour que le rachat puisse avoir lieu, c'est que la personne qui allait faire ce rachat soit un goël ou un parent rédempteur. Il fallait en effet que la personne soit de la même parenté, de la même famille. Il fallait aussi que la personne ait les moyens de racheter. Et finalement, il fallait que la personne ait envie de faire ce rachat. Et vous me direz, c'est bien beau. Mais en fait, si on ne comprend pas ça, on ne comprend pas que Jésus a dû venir se faire homme. Dieu s'est fait homme parce qu'il est devenu notre frère, à nous qui sommes venus à lui. Donc il a la parenté. Il est héritier de toutes choses, il est le Dieu incarné, il a les moyens de nous racheter. Et finalement, parce que Dieu est amour et que Jésus nous aime, il le veut bien. Et donc, lui, il a pu nous racheter de l'esclavage au péché, il va nous racheter la terre que nous avons cédé à Satan en désobéissant à Dieu, nous avons obéi à quelqu'un d'autre. Et quand on obéit à quelqu'un, on devient son esclave. La terre est passée sous le contrôle de Satan. On en a parlé la semaine dernière ou il y a deux semaines. Et finalement, il nous a même donné une descendance dans le fait que nous sommes maintenant un peuple de prêtres et de rois. Et s'il n'y avait pas ce petit livre de Ruth, et par lui-même qui est une très belle histoire, mais encore une fois, il a une signification fantastique qu'on rate si on n'étudie pas la Bible dans son ensemble. On peut vous faire une étude biblique sur le livre de Ruth sans jamais faire une comparaison avec J'espère que de moins en moins. Mais pour beaucoup de chrétiens, le livre de Ruth, ah oui, c'est l'histoire. Il y avait ce vieux monsieur qui l'a épousée, et puis elle était partout où allait sa belle-mère, elle allait la suivre, etc. En fait, ça parle. Jésus a dit, vous croyez connaître les Écritures, mais ne voyez pas qu'elles parlent de moi. Les chefs religieux de son époque, les pharisiens qui connaissaient l'Ancien Testament, les Écritures, à l'endroit, à l'envers, qui savaient les lire, qui les annonnaient, qui les lisaient en se frappant la tête contre le mur de la fondation, ils n'avaient pas compris qu'en fait, ça parlait que de Jésus. Il y a cette chose merveilleuse de voir que on dit que dans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament est caché, et que dans le Nouveau Testament, l'Ancien Testament est révélé. Il y a plein de choses qui sont annoncées dans l'Ancien Testament, et il faut le Nouveau Testament pour le comprendre. Je suis des cours d'hébreu avec des personnes qui sont très religieuses et qui n'en sont restées qu'à l'Ancien Testament. Et ils suivent les rites, les rituels, plus par tradition que parce que c'est un message qu'il y a à comprendre que Dieu a envoyé. Et bien sûr, on peut leur expliquer et prier qu'ils viendront à reconnaître ce que nous voyons dans la Bible. Mais c'est encore une fois quelque chose de frappant que on peut voir ces livres de l'Ancien Testament sans comprendre leur portée prophétique et leur portée messianique. Ensuite, il y a 1 Samuel, c'est la naissance du royaume et de la monarchie. Vous vous souvenez, les Juifs disaient, on veut être comme tout le monde, on en a marre de pas avoir de roi, tous les gens des rois, c'est bien, nous aussi on veut un roi. Finalement, Dieu accède à leur requête et le prophète Samuel va leur trouver chercher le roi Saül, qui sera le premier roi, mais qui s'avérera être un très mauvais roi pour le royaume. Et ça, c'est aussi un exemple que des fois, on peut demander des choses avec tant d'insistance à Dieu qu'il nous les donne pour nous montrer qu'il savait ce qu'il faisait en ne nous les donnant pas au départ. Et que si on ne veut pas accepter sa souveraineté dans nos vies, des fois, il va dire, tu veux ça, on va te donner ça. Ça rappelle un peu les Juifs, quand on a leur traversée du désert, ils en avaient marre, ils se rappelaient la bonne nourriture, ils en avaient marre de la manne. Cette nourriture qui tombait, qui assurait leurs besoins diététiques parfaitement, ils trouvaient que c'était pas varié. Ils se rappelaient les bons poireaux d'Égypte. Ils voulaient de la viande. Et à un moment, Dieu excédé leur dit vous voulez de la viande, je vais vous donner de la viande. Il a fait tomber des cailles sur eux. Ils en ont mangé jusqu'à ce qu'ils en meurent. On appelait ça les tombes du désir. En hébreu, ça voulait dire les tombes du désir. Le fait de vouloir quelque chose que Dieu ne nous donne pas, à un moment excédé, il va nous donner pour nous montrer que ce qu'on croit être bon pour nous ne l'est pas. Et le plus tôt on se repent de ça, le plus tôt on risque de ne pas faire l'indigestion de ce qu'on a demandé. 2 Samuel parle du règne de David, après qui vient succéder au roi Saül. Le livre des rois, c'est triste parce qu'après le roi David, il y a son fils Salomon qui va succéder donc sur le trône. Il va construire un temple, ça va être un grand moment d'expansion pour de gloire pour le royaume d'Israël, le royaume des Juifs. Mais à la mort de Salomon, le royaume va être divisé. Il va y avoir un Roboam, son fils, et Jéroboam, un autre gars, qui vont se disputer, qui vont et finalement, il va y avoir 2 tribus qui vont rester au sud et 10 tribus qui vont se mettre au nord, les 10 tribus du nord qui vont former le royaume du nord, le royaume d'Israël avec comme capitale Samarie. Les 2 tribus du sud qui sont lesquelles, vous vous souvenez, on en a parlé, Il y avait Judas et Benjamin, très bien. Et donc ces deux tribus vont rester à Jérusalem. Mais il va y avoir la guerre civile, on va voir la liste dans les deux rois. Le livre, deuxième livre des rois, on voit la succession des rois qui vont venir sur les deux trônes. Dans le royaume d'Israël, au nord, il n'y a eu aucun bon roi. Dans le royaume du sud, d'où viendra David et d'où viendra Jésus, il y a eu quelques bons rois, on en a parlé un peu. Le livre des chroniques, 1 chronique et 2 chroniques, c'est une récapitulation de l'histoire et surtout du règne de David et du royaume du sud. Et dans la Bible, c'est un principe, Dieu se concentre sur les personnes par qui Jésus va arriver. Donc, dès le départ, Adam, Ève, après il y a des fils de Seth, etc. C'est toujours la branche qui va conduire à Jésus qui est décrite dans le plus grand détail. Parce que les autres, en fait, ça ne porte pas le fruit, c'est pas la promesse de Genèse 3,15 qui est accomplie. Voilà, donc, toute cette histoire, ces tribus, on n'a pas trop parlé des patriarches, après Abraham, il y a eu Isaac, après Isaac, il y a eu Jacob et Esaü, et il y a les 12 tribus, ou 13, suivant comment on compte, parce qu'il y a eu 12 patriarches issus de Jacob, ont donné les tribus d'Israël, celle de Joseph qui s'est marié en Égypte a donné la tribu d'Éphraïm et de Benjamin. Il y a un passage qui est important de pouvoir retrouver facilement dans la Genèse. C'est celui qui donne le résumé des descendants de Jacob. Alors, est-ce que vous vous souvenez où il se trouve ? Je crois que c'est un chapitre 30 quelque chose.
Chapitre 37.
Voilà, oui. 37-22 ?
Je pense. 35.
Ah, 35, oui. 37, tout à fait, c'est ça, c'est 35-22. 23 à 26, quoi, essentiellement. Les quatre femmes de Jacob. Donc, il y avait deux concubines et deux femmes. Rachel et Léa étant ses femmes. Rachel étant sa favorite. Et puis, les deux concubines, Léa et Zilpa, qui étaient des servantes de ces deux femmes. Donc, les fils de Rachel, c'était Joseph, et de Joseph, c'était Éphraïm et Manassé. C'est ça qui. Donc, ça, c'est. Encerclez-le et sachez vous y retrouver parce que souvent, on parle des 12 tribus d'Israël et des fois, on ne compte pas les Lévites parce que, comme ils étaient des prêtres, ils n'avaient pas droit à des territoires, ils avaient juste des villes de. Ce qu'on appelait les villes de refuge où ils habitaient. Des fois, on parle de la tribu de Joseph comme d'une seule tribu, ou on parle de ses deux fils, Éphraïm et Manassé, comme de deux tribus. Et il y a toujours une bonne explication. On a vu, par exemple, dans l'Apocalypse, que dans les 144 000 témoins, il n'est pas question de la tribu de Dan. La tribu de Dan, c'est la tribu où il y a eu l'idolâtrie qui est arrivée. Et donc, au départ, dans l'Apocalypse, il n'y a pas de mention de cette tribu. Mais plus loin, Dieu la bénit aussi parce qu'il est un Dieu plein de grâce, qu'il pardonne. Mais ça, c'est un passage important. Donc, Genèse 35, 22 à 26. Voilà, la période des deux royaumes. On a vu comment le royaume du Nord est allé de mal en pis récemment et qu'il a fini par être détruit et emmené en captivité. Par quel royaume ? Ou quel empire? Il y avait, c'était l'Assyrie, alors que le royaume du Sud, lui, va être envoyé en exil par Babylone. Parce que l'Assyrie va être conquise par Babylone elle-même. Et là aussi, on a vu qu'il y avait... Il était important d'essayer de faire le repère entre les différents prophètes et la période où ils ont prophétisé. Et la captivité de Babylone, c'est un moment majeur dans l'histoire d'Israël. Pendant 70 ans, comme il avait été prophétisé, ils ont été exilés. Le royaume du Nord a été emmené en exil à peu près en 721 par le roi Sargon. Et c'est en 586 que Juda a été emmené à Babylone. Il y a eu plusieurs vagues de captivité dans le sud, mais la grande date, ça a été 586. Et puis, ils sont revenus d'exil. Et c'est ce qu'on appelle des fois la période post-exil ou post-exilique. Là, on a les livres d'Esdras, de Néhémie et d'Esther. Dans Esdras, c'est le retour pour la reconstruction du temple. Et les Juifs sont frustrés parce qu'on ne les laisse pas rebâtir la ville de Jérusalem. Et c'est Néhémie qui était... les chansons du roi qui va obtenir les permissions pour revenir rebâtir la muraille qui entourait la ville de Jérusalem. Et puis le livre d'Esther que les dames étudient mois après mois, c'est encore un livre d'un drame où les Juifs échappent à l'extermination complète pendant la domination de l'Empire perse, avec Esther qui arrive à influencer le roi et montrer qu'il y avait une machination contre les gens de son peuple. Et là, en passage, on voit la nature satanique, la nature vraiment spirituelle de l'antisémitisme. Satan va tout faire pour que Jésus n'arrive pas. Rappelez-vous, il connaît la prophétie de Genèse 3,15 que le descendant de la femme va lui écraser la tête. Donc il va s'acharner au cours de l'histoire. Il semble qu'il continue même après la résurrection. L'Holocauste, c'est un peu dans la même dimension, parce qu'il y a des prophéties qui se sont réalisées après la Deuxième Guerre mondiale. Le rétablissement d'Israël comme une nation... Le 14 mai 1948, c'est un événement apocalyptique. C'est inouï dans l'histoire de l'humanité qu'un peuple qui était exilé pendant près de 2000 ans se reconstitue en un État-nation. Il y a on va sauter juste un petit peu dans Ézéchiel, un des prophètes, où on en parlera quand on arrivera au prophète, on va pas tarder. Et Satan, connaissant ces prophéties, voulait tout faire encore en exterminant le peuple juif pour que ces prophéties ne se réalisent pas. Il veut se rassurer en disant que les prophéties de Dieu ne vont pas toutes se réaliser. Parce qu'une de ces prophéties, c'est qu'il va finir dans l'étang de feu, qui va être lié dans l'étang de feu, que l'enfer a été créé pour Satan et ceux qui le suivent. Donc il y a cette dimension de l'antisémitisme, une dimension spirituelle qui n'est pas seulement raciste, comme on voit du racisme avec tous les groupes ethniques, mais il y a cette dimension surnaturelle qui est frappante.
C'est une séduction aussi, on peut dire.
Tout à fait, les gens sont trompés. Alors après, c'est vrai qu'il faut être prudent, et quand on parle des événements historiques qui peuvent se passer en ce moment, des événements politiques du moment... Comme là, il y a Obama qui vient de dire aux Palestiniens qu'il est pour qu'ils refassent un État avec Jérusalem comme la capitale de cet État. Alors, encore une fois, il est dit que le peuple de Dieu, c'est la prunelle de ses yeux. quand on vous met le doigt dans l'œil, ça fait, vous réagissez. Et des fois, les hommes politiques de ces dernières années, de Hitler, ils ont mis le doigt dans l'œil de Dieu. Et il y a des réactions qui peuvent être... Alors, il y a des gens qui aiment bien, à partir des événements de la Bible, d'essayer de faire au jour le jour des mises à jour. Ce n'est pas un mauvais exercice, mais il faut être très prudent. Et surtout, dire qu'on n'est pas sûr quand on n'est pas sûr. Il y a des choses... pour lesquels on peut avoir des assurances, mais il est bien précisé que les dates exactes, seul le Père le sait, et même Jésus ne sait pas exactement dans certains contextes qu'on devrait préciser pour être au-dessus de tout soupçon. Suite aux livres historiques, on a les livres poétiques, le livre de Job, sans doute le plus ancien livre de la Bible, écrit peut-être avant les livres de la Torah, parce que dans les descriptions écrites par Moïse de l'histoire du peuple juif, il est question d'un certain Yabob, ou qui veut dire Job. Et son grand sujet, c'est la question que on se pose tous: pourquoi est-ce que l'innocent souffre? On est frappé par une catastrophe aérienne, il y avait un bébé dans cet avion. Et pourquoi ce bébé a-t-il souffert? J'ai parlé avec Eric, qui a eu un accident de voiture la semaine dernière, alors qu'il revenait d'un... C'est pas trop grave. Mais il venait de passer du temps à distribuer des tracts dans la rue. Je l'avais rencontré, on avait parlé un peu, prié. Il reprend sa voiture et il a un accident. Et... question, c'est... Et je lui ai demandé s'il avait ça lui avait traversé l'esprit. Il a dit non, bah oui, c'est vrai, un peu quand même. Parce qu'on se dit, attends Seigneur, je viens, je prends du temps, je viens pour distribuer des traités, pour parler de toi, pour dire aux gens que tu les aimes. Et puis, pof, je me prends un accident. Alors, je lui ai dit, oui, non, c'est vrai, mais souvent, c'est pas Dieu qui a fait ça. C'est Satan qui a voulu te décourager, qui veut te faire croire que Dieu ne récompense pas les gens qui le servent. Et c'est l'histoire de Job, vous souvenez, tout lui tombe dessus. En fait, c'est Job, c'est Dieu qui se vante auprès de Satan, que Job, c'est un type formidable. Et Satan lui dit, attends, parce que tu le bénis, il te sert, mais donne-le-moi un peu, tu vas voir, il va te maudire. Et en fait, on voit qu'il y a des choses qui se passent, qui nous dépassent. Parce que c'est dans le domaine spirituel, il y a un domaine spirituel, ça c'est aussi la grande leçon de la Bible, qui a une réalité qui nous dépasse, qu'on ne vit pas seulement dans nos trois dimensions, il y a d'autres dimensions, et notamment une dimension spirituelle, où il y a un combat pour nos âmes. Et ça aussi, la science moderne nous a révélé qu'en fait les choses qu'on croyait être solides, dures, concrètes, c'est en fait du vide qui tourne très vite sur lui-même. C'est des ondes électromagnétiques. Le fait que je cogne, c'est pas parce que il y a une plaque contre une plaque, non, c'est parce qu'il y a des champs électriques qui lient les atomes qui sont que du vide, pratiquement. Il y a des tout petits noyaux qui sont faits de noyaux qui sont encore du vide, qui tournent très vite. Et plus on voit la science moderne, et plus on se réalise qu'en fait, la Bible n'a aucune contradiction avec la science moderne. Bien au contraire. Certains scientifiques, d'ailleurs, s'inspirent de la Bible pour faire des recherches. Rockefeller a trouvé le pétrole et est devenu l'homme le plus riche du monde parce qu'il était chrétien et s'est dit qu'on parlait des champs de poids en Israël. Il s'est dit, s'ils ont fait pour faire l'arche de Noé, s'ils ont trouvé de la poids, donc cette matière visqueuse, base de pétrole, etc., il s'est dit, si la Bible est vraie, on va aller faire des recherches là-bas. Il a trouvé le pétrole en Arabie Saoudite et dans la région, et il est devenu l'homme le plus riche du monde. Et les scientifiques, eux aussi, il y a des docteurs qui prennent toutes les prescriptions alimentaires pour faire des recherches. On s'est aperçu que c'était le 8e jour après la naissance d'un enfant mâle qu'il avait le plus d'anticorps qui empêchaient une infection de se développer. C'est le 8e jour, au 8e jour que la Bible prescrit qu'on coupe le prépuce de l'enfant né. Pourquoi? Parce que c'est le moment le meilleur pour l'enfant. Et donc Dieu, parce qu'il nous aime, il donne des prescriptions. Les prescriptions alimentaires, C'était fait à l'époque parce qu'ils traversaient le désert, ils n'avaient pas de réfrigération, donc ils ne devaient pas manger de certains aliments qui développent des parasites, comme le porc. Et certains continuent de faire ces prescriptions aujourd'hui, alors qu'en fait, là, Jésus a dit, Paul, on dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous mettez dans votre bouche, on l'a entendu par l'évangile de Marc, c'est ce qui sort de votre cœur qui pollue votre être, c'est pas la nourriture. Les livres poétiques, dont les livres de Job, Pourquoi l'innocent souffre, les psaumes, c'était les transparents d'Israël, c'était le recueil des cantiques d'Israël. C'est beaucoup été écrit par le roi David et nous font du bien aujourd'hui encore. Les proverbes, c'est des éléments de sagesse écrits par le roi Salomon. Salomon à qui Dieu avait demandé de choisir ce qu'il voulait qu'il lui donne. Et au lieu de lui demander à Dieu la richesse, la célébrité, la renommée, il a demandé la sagesse pour pouvoir régner comme un bon roi. Et bingo, Dieu lui a dit, tu as fait un très bon choix, non seulement je vais te donner la sagesse, mais je vais te donner la richesse, je vais te donner tout ce que tu peux imaginer. Malheureusement, cette sagesse, il ne l'a pas mise toujours en application, il l'a donnée dans les proverbes, mais lui-même s'est laissé prendre par ce que Dieu nous mettait en garde, met l'homme en garde contre l'argent, la puissance et les femmes. Alors ça, c'est pas macho, mais il faut dire que lui, le roi Salomon, il avait 300 femmes et 700 concubines. Alors c'est vrai qu'à l'époque, le mariage, c'était aussi une façon de lier des alliances politiques. Ça ne veut pas dire nécessairement que c'était un monstre d'appétit physique, sexuel ou quoi que ce soit. Mais il s'est laissé influencer par ses femmes, elles avaient des idoles qu'il a laissé s'introduire dans le culte de son peuple, et ça conduit à la division du royaume. L'Ecclésiaste, c'est l'expérience de Salomon, et ce livre il peut être mal compris parce que souvent on dit vanité des vanités, tout est vanité, on a l'impression que rien ne sert à rien, qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et ça peut être pris, si on le prend encore une fois sans comprendre comment il est placé dans son contexte, ça peut être un livre très décourageant, parce qu'il y a quoi bon vivre. Mais la conclusion du livre, c'est que c'est la conclusion qu'il n'y a rien à faire, la vanité, tout est vanité, vanité des vanités, la vie est vide, si on n'a pas Dieu dans notre vie. C'est justement pour montrer que sans Dieu, l'équation de la vie, elle est stupide, elle est absurde. Et donc c'est pas... Contrairement à ce que certains pensent quand ils prennent des passages indépendamment du contexte, ils disent, ben oui, la Bible dit que la vie, ça ne sert à rien. Non, la vie est belle, la vie a un but, si tant est qu'on est connecté à Dieu, qui a créé la vie pour nous permettre de l'adorer, de le connaître, de le servir. Et le dernier des livres poétiques, c'est lequel ? Voilà, le Cantique des Cantiques, le top des poèmes, le top des chants. C'est un livre un peu mystérieux, mais il est question dans ce livre de l'intimité amoureuse entre un homme et une femme, de façon très, très poétique, mais aussi très graphique. Il y a des descriptions du corps de la bien-aimée, du corps du bien-aimé, qui sont toujours... pudiques, mais qui, en fait, sont assez suggestives, à tel point que c'était un livre qu'on ne laissait pas aux jeunes juifs, on ne le laissait pas lire tant qu'ils n'étaient pas mariés. Et c'est vrai qu'il est question de l'intimité amoureuse entre un homme et une femme, mais ce livre, lui aussi, prend toute sa signification quand on réalise qu'en fait, l'Église, le peuple de Dieu, qui devient... avec les païens qui rentrent dans l'Église, le peuple de Dieu devient l'épouse de Christ. Et pour moi, la sexualité, Dieu aurait très bien pu faire qu'on se reproduise par d'autres façons. On aurait pu, comme certaines plantes, on coupe une branche, on la plante dans du terreau et ça repart. Dieu aurait pu faire ça avec l'homme. Il a choisi de passer par la relation intime entre un homme et une femme. Et ça, c'est, je crois, parce qu'il a voulu nous donner un avant-goût de la relation entre lui et son peuple. La joie, le bien-être qu'on peut avoir avec l'être aimé, physiquement, émotionnellement, intellectuellement, sur terre, c'est une pâle réflexion, une pâle image de ce qui nous attend avec Dieu. C'est ma conviction, ce n'est pas quelque chose qui est décrit tel quel dans la Bible, mais pour moi la sexualité c'est un avant-goût de la puissance, de la force de ce qui nous attend avec Dieu lorsqu'on sent sa présence.
J'ai une question.
Oui.
Oui, je veux savoir, est-ce que c'est volontairement qu'on met de côté aussi les chrétiens non plus, il n'y a pas beaucoup d'églises qui en parlent du Cantique des Cantiques?
Sans doute, parce qu'il y a une certaine gêne, peut-être.
Gêne, parce que si l'on dit en chrétien, typiquement verset du Cantique des Cantiques, on ne retient pas. On connaît Jean 3, 16, Jean 4, 4, et compagnie. Mais un verset du Cantique des Cantiques.
Oui. Il y a. En fait, ce qui est remarquable, c'est que au milieu de ce petit livre, en plein milieu, il y a Dieu qui encourage le couple à prendre du plaisir, à prendre de la joie. Alors, j'y arrive, l'Ecclésiaste, les Cantiques des Cantiques. Ça doit être à peu près. Il y a 8 chapitres. C'est au niveau. Voilà, c'est au verset 1 du chapitre 5. Il y a souvent des passages de la première personne du présent. Donc c'est l'un des deux amoureux qui parle, le mari ou la femme. Et à la fin du verset 1 du chapitre 5, « Mangez, amis, buvez, enivrez-vous de tendresse ». Ça, c'est en plein milieu de ce passage. Et ça rachète aussi, en quelque sorte, la sexualité humaine que Satan a tellement tordue, détournée, transformée comme une image de péché, une source de péché. Et c'est vrai que Dieu a mis de fortes pulsions dans l'homme vers cette union charnelle, et qui est une très belle chose pour les gens qui sont mariés. On peut tous, je pense, en attester. C'est une chose très belle, c'est une chose très pure, c'est une chose qui bénit. Et Satan essaye d'en faire quelque chose qui fait du mal, quelque chose qui est mauvais, qui est honteux, qui est caché. Et là encore, il faut que l'Église annonce aux jeunes, aux moins jeunes, que la sexualité, c'est un cadeau de Dieu qui est beau quand il est exercé dans le cadre où Dieu l'a voulu, le cadre du mariage. Et qu'en dehors de ça, c'est comme si un feu, ça peut être une très belle chose quand c'est dans la cheminée. Si on met les charbons et les braises sur la moquette devant le canapé, ça va prendre feu, c'est quelque chose qui n'est pas à sa place. Et de la même façon, la sexualité, c'est une chose qui a été inventé par Dieu, pas par Satan. Et donc ce livre des Cantiques des Cantiques, il est très beau justement de ce niveau. Et là aussi on peut le lire donc au niveau d'une histoire entre un homme et une femme, mais on peut voir aussi la présence de Jésus étant l'homme qui va être l'époux de l'épouse qui va être l'Église. Et ces deux lectures se complètent parfaitement. Ne sont pas du tout opposés, bien au contraire. Lorsque l'Église dit que, plutôt la fiancée dit que toute sa personne est désirable, que l'homme bien-aimé est complètement désirable, c'est aussi l'Église qui peut dire que Jésus, en Jésus tout est désirable. Il n'y a aucun aspect de sa personnalité qui soit à rejeter ou à dire ah, si seulement il n'était pas comme ça. Et en anglais, j'aime bien l'expression, on dit « il est altogether lovely », complètement aimable, complètement appréciable, complètement parfait sur tous les angles. Donc ça, c'est pour les livres poétiques. Les grands prophètes, Ésaïe, Jérémie, Lamentation, Ézéchiel, Daniel, On les appelle grands simplement parce que leurs écrits sont plus volumineux que les petits prophètes, par opposition les 12 qui terminent l'Ancien Testament. On a le bonheur, moi pour moi c'est vraiment un privilège de pouvoir attaquer en ce moment le prophète Ésaïe et de voir toute la richesse et toutes les prophéties qui sont dans Ésaïe. C'est le grand prophète messianique, c'est-à-dire que mieux que quiconque, il a parlé de la venue et de la seconde venue de Jésus-Christ. Jérémie, c'est le prophète qui pleure, c'est le prophète triste parce qu'il a vu la désolation de sa nation et de Jérusalem après avoir averti et préparé. Il y a même une appendice qui s'appelle les Lamentations de Jérémie. Jérémie, c'est un chant funèbre sur la destruction, la désolation de Jérusalem. Ézéchiel, lui, c'est aussi un prophète qui a parlé de la restauration future d'Israël. Vous connaissez peut-être si vous avez lu la prophétie des ossements qui se remettent ensemble, où il y a des ligaments qui se remettent sur les ossements, que de la chair vient sur ce squelette qui se reconstitue pour être finalement reconstitué. Et beaucoup voient là la promesse de la reconstruction, de la restauration d'Israël qui s'est produite en mai 48. Il y a beaucoup d'autres prophéties qui sont sans doute sur le point de se réaliser. Daniel, lui, il a parlé sous les deux empires de Babylone et des Perses. Et on a vu ces incroyables prophéties, notamment la prophétie des 70 semaines ou des 70 périodes de 7 ans. Et on a dit qu'en fait, il y avait la prophétie de la destruction de Jérusalem, l'arrivée du prince d'une nation qui allait mettre fin au Messie, le Messie qui allait être frappé. Et il y a une 70e semaine, et on pense que cette 70e semaine, elle va se redéclencher. Cette nouvelle période de 7 ans, elle va se redéclencher à la fin des temps. Et ça sera la période d'un royaume pendant, d'un règne d'un antéchrist pendant 3 ans et demi, et que la deuxième partie, ça va être la grande tribulation. Les petits prophètes, Osée, lui, a parlé de l'infidélité du royaume du Nord. Joël a parlé du jour du Seigneur, un jour terrible où le Seigneur va revenir. Amos, il a parlé du règne de la maison de David, le règne éternel. Abdias a parlé de la chute d'Édom, pas les Dom-Tom, hein, rassurez-vous. Édom, c'était le royaume qui descendait d'Ésaü. Jonas a parlé à la ville de Ninive. Dieu voulait sauver les païens, il avait envoyé Jonas pour les prévenir. Jonas ne voulait pas, parce qu'il était raciste, il était très fier d'être juif, il ne voulait pas que les païens soient sauvés, mais Dieu a utilisé des moyens pour le forcer à faire son ministère, en le faisant avaler par le célèbre épisode du grand poisson, pas de la baleine, mais simplement d'un grand poisson. Michée, c'est le prophète qui a annoncé que le Messie viendrait à Bethléem. Au toit Bethléem, petite ville d'Ephrata, Ephrata, petite ville. Ça, c'est Michée 5.2. Michée 6.8. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, ce que l'Éternel demande de toi, ce que tu pratiques le droit, que tu aimes la loyauté, que tu marches humblement avec ton Dieu. Tout un programme de vie est déjà dans Michée. Nahum, c'est le prophète qui est retourné à Ninive un siècle plus tard, et la ville ne s'est pas repentie là et elle a été détruite. Habacuc, c'est le prophète de Dieu qui utilise des infidèles pour punir, pour reprendre son peuple. Et c'est la question, pourquoi est-ce que des fois Dieu utilise des gens pires que nous pour nous juger? Des fois, il va On a du péché dans notre vie. Il y a des gens qui le connaissent pas, mais qui vont nous reprendre, qui vont, par leur vie, nous reprendre. Et Dieu peut faire ça, parce qu'il est souverain. Et des fois, il utilise des personnes, même non sauvées, pour nous juger. Habacuc, c'est aussi le prophète qui a dit « Le juste vivra par la foi », qui est, on a vu, une sorte d'une trilogie dans le Nouveau Testament, avec les trois livres qui parlent de cette phrase, le livre de Romains, le livre d'Éphésiens et le livre de la lettre aux Hébreux. Avant, il y a Sophonie. Encore une fois, tu parlais de versets qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas. Souvent, il est intéressant de lire la Bible et de remarquer ce que disent les versets 3.16 ou 3.15. Souvent, il y a des fois des choses remarquables à mémoriser dans ces versets. Et lorsqu'on regarde Sophonie, c'est Sophonie 3.16 ou 3.17. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera dans son amour le silence dans son amour pour toi. Il aura pour toi une triomphante allégresse. Et c'est bien sûr quelque chose qui a une portée messianique, parlant de Jésus. Mais je crois que ça a une portée aussi pour tout enfant de Dieu, c'est que le Seigneur se réjouit en nous. Et l'idée que Dieu peut sourire, peut nous regarder, avoir une triomphante allégresse, ça change notre façon de vivre, de voir Dieu. On a tendance, et l'ennemi veut qu'on se focalise sur nos manquements, sur nos péchés. Et il aime bien ces péchés répétitifs qui font qu'on n'a jamais la joie parce qu'on dit « Oh, j'ai encore fait ça, j'ai encore fait telle ou telle chose » et ça peut nous garder sous un poids, sous une pression, alors qu'en Christ on a la liberté, on peut l'invoquer pour qu'il nous délivre de ces choses et savoir que même quand on pêche, Dieu nous aime, c'est comme un enfant. Ceux qui ont la joie d'être parents savent que même lorsqu'un enfant désobéit, on l'aime. Même quand on lui donne une correction, ça ne change rien à notre amour pour cet enfant. Au contraire, on le corrige parce qu'on l'aime. Et l'idée que quand Dieu me regarde, qu'il peut faire de moi sa plus grande joie si je suis disponible, si je l'écoute, si je passe du temps avec lui, même des fois, il va peut-être être silencieux, mais d'avoir cette confiance que Dieu m'aime. Quand il pense à moi, celui-là, il faut que je le détruise ou que je ne sais pas si je vais le garder ou je vais le rejeter. Et ce verset est très important. Sophonie 3.17. Il y a aussi la promesse dans Sophonie de la venue d'un langage pur. Et certains voient là une prophétie réalisée avec le retour de l'hébreu comme une langue vivante. Ça aussi, c'est quelque chose d'unique dans l'histoire de l'humanité. Il n'y a pas de langage inca qui redevient un langage à la mode. Et le langage hébreu qui redevient une langue vivante, c'est peut-être une réalisation de cette prophétie. Agée, lui, a parlé de la reconstruction du temple. Zacharie a beaucoup de prophéties. Il a plein de chapitres. Ce n'est pas un tout petit livre. Il est plus petit que les gros livres d'Ésaïe, mais il a quand même 14 chapitres. Et lui, il a plein de choses concernant le retour de Christ. Malachie, c'est le message final à un peuple qui a désobéi. Ça termine l'Ancien Testament. On sait que dans ce petit livre, il y a le secret pour ne plus avoir de problèmes financiers. Et le secret, c'est de donner à Dieu ce qui lui appartient, c'est-à-dire lui reconnaître que tout lui appartient en lui donnant un dixième de nos biens. Alors ça, c'était la dîme dans l'Ancien Testament, mais le même principe se poursuit sans être légaliste sur un montant, mais de donner à Dieu. Et souvent, les personnes qui font l'expérience de vraiment donner une dîme, donner un... et je sais que beaucoup parmi vous font ce geste de foi, se dire, je ne sais pas comment je vais finir le mois, mais avant de compter, je donne pour le service du Seigneur. Ça peut être à l'église locale, ça peut être pour aider des missionnaires, ça peut être d'autres choses, mais c'est le secret pour régler les problèmes financiers. Si on apprend à donner à Dieu, il nous dit qu'il nous met au défi de voir si quand on donne une dîme ou une offrande, s'il ne va pas nous rendre beaucoup plus, s'il ne va pas ouvrir les portes des cieux pour nous bénir. Il nous met au défi de le faire. Et c'est vrai qu'au début, on dit, mais attends, c'est pas possible, bon, je veux bien donner un petit peu, mais... Et dans le Nouveau Testament, il y a des enseignements que Dieu, par Paul, que Dieu aime quelqu'un qui donne en rigolant, en riant. Il veut qu'on donne de façon hilare. On rigole en donnant, même si on se dit, je ne sais pas comment je vais faire, mais je donne ça. Et il y a une libération de ne plus avoir la peur des finances. Alors là, c'est encore une fois, dans l'Ancien Testament, il est dit de donner selon ce que le Seigneur met sur votre cœur. Donc, laissez personne vous mettre la pression pour dire, ah, toi, tu n'as pas donné 10%. Toi, comment ça se fait que ça fait plusieurs semaines? Moi, je ne veux pas savoir ce que vous faites pour pas que celui qui donne plus, j'ai tendance à... Oh oui, je viendrai passer du temps avec vous. D'accord, vous pouvez m'appeler à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, mais toi, tu viens le mardi matin. Il se passe une période de silence. Dieu est en colère. Moi, je suis méditerranéen. J'aime bien, quand je suis en colère, j'explose, je crie. J'ai un nom corse. Oh! Nancy, elle est du Nord, elle a du sang gallois, du sang allemand.
Ils vont mentir.
Et pour punir, ils mettent la fermeture éclair, ils ne parlent plus. Et elle sait que si elle veut m'embêter, me faire du mal, elle ne me reste plus la parole. Et moi, ça me rend fou. Moi, c'est le bruit, elle, c'est le silence. Et là, apparemment, Dieu est puni avec le silence. Pendant 400 ans, il ne va plus envoyer de prophète, il ne va plus rien dire jusqu'à ce qu'il parle à Zacharie. Et on arrive au Nouveau Testament. Là aussi, ça commence par 5 livres historiques, c'est les évangiles, les livres des actes. Les deux derniers, c'est par Luc. Il y a les épîtres de Paul, il y en a 13 en tout. Ensuite, il y a l'épître aux Hébreux qui a peut-être été écrite par Paul, mais le nom n'est pas indiqué, donc on ne veut pas être dogmatique là-dessus. On a vu que dans les évangiles, il y avait ces 4 aspects de Christ qui recoupaient les bannières ou même les êtres vivants de l'Apocalypse, où on parle souvent d'une représentation de 4 visages d'hommes, de lions, de bœufs, et d'aigle. Et là, on peut voir le lion, ça peut être l'évangile de Matthieu qui écrit aux Juifs, qui le présente comme le Messie d'Israël, le lion de Juda. Marc, c'est l'évangile qui a été dicté un peu par Pierre à son compagnon de voyage. Il le présente aux Romains comme le serviteur qui souffre, comme un bœuf qui travaille. Et il n'y a pas de généalogie dans Marc, parce qu'un employé de maison, quelqu'un qui vient travailler, on n'a pas besoin de savoir sa généalogie, il est traité juste parce qu'il vient aider, on ne veut pas en savoir plus. Luc, un médecin grec, le présente lui aux Grecs comme le fils de l'homme, c'est l'homme. Et puis Jean le présente à l'église comme le fils de Dieu. Et donc cette représentation de l'aigle qui vole très haut. L'Apocalypse parle aussi d'être vivant. Dans l'Apocalypse 4, 7, parle d'un être vivant, d'un ange qui avait la tête d'un lion, deuxième qui ressemblait à un veau ou un bœuf, le troisième un visage d'homme, le quatrième semblable à un aigle en plein vol. Et on a parlé aussi que dans le traversée du désert, lorsqu'ils établissaient le camp, Il y avait tout un... Dans le livre des Nombres, il y a toute une description des tribus, dans quel ordre elles devaient se mettre, se placer. Au centre, il y avait le tabernacle. Et il y avait, aux quatre coins, il y avait des étendards pour quatre tribus. Et c'était aussi le lion, le bœuf, l'homme et l'aigle. Donc on voit aussi une harmonie qu'on rate si on ne connaît pas toute la Bible. On ne voit rien, on se dit... Oh, être avec une tête de bœuf, une tête d'homme, on ne sait pas pourquoi. Dans les lettres qui suivent celles de Paul, donc on va mettre celles d'Hébreux, Jacques, c'est un peu les proverbes de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament. Il y a des choses très pratiques, des encouragements très pratiques. Il y a les livres, les lettres de Pierre, 1 et 2 Pierre, qui parlent des persécutions, qui parlent aussi du futur de l'Église. Il y a les trois épîtres de Jean, la première qui est un merveilleux hymne à l'amour, la deuxième lettre et la troisième qui parle des faux apôtres, des personnes dont il faut se méfier. Jude qui nous encourage à rester, à nous battre pour la foi qui a été une fois pour toutes délivrée aux saints et à rester dans l'amour de Dieu. Et puis finalement, on arrive à l'Apocalypse, dont on a parlé les deux dernières semaines, donc je ne vais pas trop en parler, mais l'Apocalypse, on voit qu'il y a un plan divin dans la lettre elle-même. Il y a une promesse déjà de bénédiction pour ceux qui lisent et qui appliquent ce qui est dit. Verset 19 du chapitre 1 nous donne le plan de la lettre, écrit du livre. « Écris donc ce que tu as vu. » On a vu que c'était la vision de Christ. « Ce qui est », c'était les sept églises, donc, qui existait à l'époque, et puis ce qui va se produire ensuite, c'est vraiment le futur apocalyptique. On a vu que ces sept églises, elles correspondent à des églises historiques qui étaient implantées en Asie mineure, que ça décrivait des problèmes qu'on pouvait avoir dans toutes les églises, en partie des combinaisons dans toute l'histoire de l'église, mais qu'aussi ces différentes églises pouvaient et c'est surprenant de voir comment ça marche bien, représenter des époques de l'histoire de l'Église. L'Église du premier siècle qui a perdu son amour, comme l'Église d'Éphèse, l'Église de Smyrne qui est l'Église qui est persécutée, comme l'Église chrétienne persécutée au début des deuxième et troisième siècles, jusqu'à ce que il y ait un mariage mixte, lorsque l'Église est devenue une Église d'État, une religion d'État, sous le règne de Constantin, qui est devenu chrétien. Et donc il y a eu un mélange des genres. Tout ce qui était païen a été récupéré pour en faire quelque chose. Des fêtes païennes ont été récupérées, comme Noël, comme certaines célébrations de Pâques. C'est ce qu'on appelle le syncrétisme religieux. On prend des choses qui ont une mauvaise origine et puis on les met avec des choses chrétiennes. Ça existe beaucoup, par exemple, en Amérique du Sud, où il y avait des cultes aussi qui ont été incorporés dans l'Église catholique de l'époque et qui n'ont aucune base biblique. Thyatire, c'est l'église du sacrifice perpétuel, ça correspond à l'église catholique jusqu'à la réforme. L'église de Sardes, c'est l'église qui a entendu la parole, c'est l'église en gros de la réforme qui a remis la parole de Dieu au centre de la foi. L'église de Philadelphie, c'est une des églises aussi où il n'y a pas de reproche. C'est l'église protestante au XIXe siècle, lorsqu'il y a eu les mouvements de réveil et les mouvements missionnaires, qui, j'espère, se continuent jusqu'à aujourd'hui pour certaines dénominations ou pour certains mouvements d'église. Il lui est promis qu'elle évitera la période de la grande tribulation, verset 10 du chapitre 3. Et puis l'église de Laodicée, c'est l'église qui n'est ni froide ni bouillante. Malheureusement, pour nous, c'est le danger de l'église moderne, de se contenter de vivoter, de faire nos, nos œuvres en se croyant riche alors qu'on est pauvre, en croyant vêtu alors qu'on est nu. Mais encore une fois, Jésus nous dit qu'il est à la porte, qu'il se tient. C'est un peu terrible de penser que Dieu est à la porte de l'Église, qu'il essaye de rentrer. Mais là aussi, on a dit que on est tous invités à lire ce qui est dit à toutes les églises. Il ne faudrait surtout pas croire que parce qu'on ne fait pas ci ou on ne fait pas ça, on est sans doute la meilleure église, une église de Philadelphie qui n'a pas de défaut. Tout ça, c'est des conseils que Dieu nous donne. Et il nous dit que si on met en garde, on applique ces conseils, on sera béni. Voilà, donc là, on a parlé de la 70e semaine et de la période de la tribulation, du millénium, du règne de Jésus sur la terre. On a parlé des différentes visions. Nous avons une vision pré-tribulationniste, c'est-à-dire que l'Église sera enlevée avant la grande tribulation. Et que les événements qu'on décrit dans l'Apocalypse à partir du chapitre 4, on les verra d'en haut. On verra comment les événements qui se passent dans les cieux ont des répercussions sur terre, des catastrophes cataclysmiques. On sera dans la salle du trône dont a parlé Ali Pio dimanche dernier. On pourra focaliser nos regards là, voir ce qui se passe, mais toujours avec Dieu. Et puis, au bout de cette période de 3 ans et demi de grande tribulation, on croit que Christ va revenir avec les saints, avec son Église, pour régner sur la terre pendant 1000 ans. Et puis il y aura une nouvelle terre, des nouveaux cieux, une nouvelle Jérusalem, et nous vivrons pour toujours avec Dieu. C'est rien de le dire rapidement comme ça, c'est bien de méditer là-dessus, et comme le disait Ali Pio, de penser à ces choses-là, ça transforme notre vie. Le Créateur de l'univers est devenu homme, c'est énorme, parce qu'il nous aime, il a un plan merveilleux. Il y a plus de 1800 prophéties sur 700 sujets dans la Bible. Le grand sujet, c'est Israël. Israël, pour certains, c'est le chronomètre de l'histoire. On regarde ce qui se passe en Israël, on se dit, tiens, Israël est redevenu une nation. La prophétie d'Ézéchiel s'est réalisée. On se rapproche de la fin des temps. La cité de Jérusalem va être la cause de guerre dans le monde entier. C'est intéressant lorsque Obama dit aux Palestiniens qu'ils ont le droit d'avoir un État avec Jérusalem comme capitale. Ça, le prophète Zacharie a dit que c'est une source de problèmes pour le monde entier, Jérusalem. Le temple va être reconstruit, Jésus, Paul, Jean l'affirment. Il va y avoir une invasion de la Russie en Israël. La Chine va devenir une hyperpuissance, ça a commencé, on le voit, ils rachètent tout, ils rachètent. Ils ont une puissance économique qui en est assez balbutiement. L'émergence de l'Europe, c'est une prophétie. Le fait que l'Empire romain va être reconstitué, on y est en plein. On doit voter cette semaine pour de nouveaux progrès, entre guillemets. La prophétie d'une religion œcuménique, où tout est accepté, la tolérance, on laisse la vérité à l'entrée, et on va se réunir, on va prier avec le pape. Ouais, on va prier avec le pape, les Indiens, les Juifs, les musulmans. On ne sait pas qui on prie, mais on prie tous ensemble. On ne va pas se disputer. Hein. Et qu'en fait, la prophétie, c'est qu'il ne peut pas y avoir plusieurs religions qui sont justes parce qu'elles disent des choses contraires. Donc, il y en a une qui est vraie, les autres sont fausses. Un gouvernement global. On voit de plus en plus le désir de régler les problèmes du monde à l'échelle. On a le G8, le G27, G12, 25, G12, etc. On voit des personnages comme Obama, je ne dis pas que c'est lui, mais on aspire à ce genre de personnage qui a eu beaucoup de charisme et qui semble avoir une grande sagesse. C'est peut-être pas lui, mais la Bible promet qu'il y aura un gars de son genre qui sera l'antéchrist, arriver la paix sur la terre et qui, au bout de 3 ans et demi, va vouloir se faire adorer parce qu'il est inspiré par Satan. Et ça sera le début de la grande tribulation. Lorsqu'il y aura des images de cet antichrist mises dans le temple à Jérusalem qui aurait été reconstruit, l'essor de l'occulte, on voit que dans tous les journaux il y a les horoscopes, l'immoralité dans le monde occidental, des choses qui nous auraient fait frémir, des scènes de sexe graphique maintenant à toute heure du jour et de la nuit sur la télé, c'est bon, c'est sain, c'est normal. Les 10 commandements, tous les sujets des films, il suffit de voir le box-office, de voir les films Hollywood, le Festival de Cannes. Je crois qu'un des films qui a remporté le prix de l'interprétation féminine, ça s'appelle justement l'Antéchrist, ou c'est des scènes de sexe horrible. Les violations des 10 commandements, c'est ce qui fait recette à Hollywood et à Cannes. C'est mûr, ça va. Mais dans cette obscurité, on est porteur de lumière, on a eu la grâce d'être touché par le message de Jésus, et Jésus nous donne encore le temps d'annoncer cette bonne nouvelle à tous ces gens qui peuvent être pris dans ces... Encore une fois, c'est pas contre la chair et le sang qu'on combat, mais contre les dominations dans les lieux célestes, les puissances des ténèbres, etc. C'est un combat spirituel, et les gens qui des fois on a envie de frapper, d'éliminer, rappelons-nous qu'ils sont créés à l'image de Dieu, que Dieu veut qu'ils viennent à sa connaissance, qu'ils veulent que tous arrivent à la repentance et soient sauvés. Et c'est le temps de la grâce. Et on est encore dans le temps de la grâce, peut-être plus pour longtemps, mais connaissez votre Bible, étudiez-la, saisissez toutes les occasions de l'étudier avec des gens que vous respectez, et ne croyez jamais ce que Pierre vous dit, ce que tel enseignant va vous dire, ce que tel évangéliste va vous dire. Allez voir dans la parole si ce qu'on vous dit est vrai, comme Paul félicitait les Béréens dans l'acte 17-12, je crois. Ils étaient mieux, ils allaient voir si ce que Paul, pensait Paul, le grand apôtre Paul, il leur disait, ils allaient vérifier si c'était bien ce qui était dit dans la parole. Parce que l'autorité finale, c'est la parole de Dieu, inspirée par l'Esprit Saint. Amen.
Amen.
Waouh.